set.
Bonjour à tous et à toutes, je suis Annabelle Rollin, bienvenue dans On Your Marks, le podcast athlétisme de L'Équipe. Dans cette série appelée Records très personnels, on reçoit des hommes et des femmes qui ont écrit les plus belles pages de l'athlète français pour raviver les souvenirs du jour de leur record. La sensation de vitesse pure, de la chaleur de l'air qui file sur la peau, le bourdonnement des battements du cœur dans les tempes au départ dans un stade qui se tait. Que reste-t-il de tout ça des années après ? 13 ans, pour être précise, 13 ans que Christophe Lemaître a battu son premier record de France senior du 100 mètres. Je suis ravie de vous accueillir dans nos studios, Christophe, bienvenue.
Merci à vous.
Et avec moi, pour revenir sur ce jour spécial de 2010 et bien d'autres, vous allez le voir, je vous présente Jean-Christophe Bassignac, grand reporter à L'Équipe qui a suivi l'athlète et l'ascension fulgurante du prodige de Culosse. Bienvenue, Jean-Christophe.
Bien, merci.
On va peut-être voir un chrono exceptionnel vu ce qu'on a vu sur les séries et demi-finales avec un vent qui est un petit peu tombé, donc il serait plutôt dans des conditions juste favorables et régulières et acceptables.
Attention à Martial Bandjok qui a fait d'énormes progrès avec John Smith, de très bons départs et surtout une fin de course superbe.
Il est ce que les Américains appellent un big game racer. C'est quelqu'un qui aime les compétitions et les courses à gros enjeux. Alors certes, le maître a couru plus vite avec ses 10-0-5 en demi-finale, mais ben, attention à M. Bandjok.
Et le maître champion d'Europe et champion du monde junior, champion de France l'année dernière, que bien les championnats.
C'était le samedi 9 juillet 2010. Il faisait chaud ce jour-là, le soleil écrasait la piste du stade Pompidou. Un peu plus de 5000 spectateurs dans les tribunes du stade de Valence. Et j'avais la chance d'être là, en spectatrice, tout près de la ligne d'arrivée.
Pas de faux départ, Christophe Lemaître bien parti, Martial Bandjok qui revient, Christophe Lemaître devant, Christophe Lemaître devant, Christophe Lemaître qui va s'imposer, 9,99 devant un régulier, record de France égalé au moins, record de France égalé, 9,99.
Et c'est
on
tout
attend
simplement
9,98
9,90 record de France
9,98 record de France.
Et je me souviens du frisson qui m'a saisi quand vous avez franchi cette ligne, Christophe, et quand le chrono s'est affiché. 9,98. Ça m'a fait comme un petit coup de jus. Quelles sensations vous reviennent en mémoire à vous ?
Les premières sensations, c'est forcément la joie dans un premier temps, parce que c'était un chrono qui était important pour moi pour commencer à entrer vraiment dans le cours des grands. Cette barrière des 10 secondes, c'était vraiment une barrière mythique. Et je savais que je les avais dans les jambes, mais il me fallait juste des conditions, le déclic pour y arriver. Et une fois que je l'ai passé, il y a eu vraiment la fierté, la joie de enfin passer cette barrière des 10 secondes, d'avoir en plus le record de France en même temps, et d'avoir réussi tout simplement à, comme je l'ai dit avant, commencer à rentrer dans la cour des grands, parce que 9,98, c'est fort, mais quand c'est les athlètes, les sprinteurs qu'il y avait à cette époque-là, c'était finalement, c'était pas encore une perf qui te permettait à cette époque-là d'être médaillé dans un grand championnat, que ce soit au jeu ou au championnat du monde.
Oui, bien sûr. En 2010, on est en plein dans les grandes années du Usain Bolt. Derrière lui, il y a des Jamaïcains qui vont très vite. Et côté américain, Tyson Gay, évidemment. Et pareil, il y avait toute une armada. Plus largement, sur cette journée-là, quel souvenir vous avez ? Dans quel état de forme vous étiez ? Dans quel état d'esprit ?
Je pense que j'étais dans une bonne forme. De toute façon, deux jours après ou le lendemain, j'ai gagné le record de France du 200. Donc, j'étais vraiment dans une forme incroyable. Ça s'est enchaîné très vite parce qu'il y a eu les moins de 10, la finale du 100 avec tout l'abattage médiatique qu'il y a eu. Il fallait se remobiliser pour le 200 derrière parce qu'il y avait aussi un chrono à aller chercher. En plus, il y avait quand même un autre client en face qui était David Alerte à l'époque qui lui aussi était là pour chercher un chrono pour les championnats d'Europe. Donc, il fallait que je me donne vraiment à fond. Surtout que le 200 mètres, à l'époque, c'était une distance qui me faisait encore peur où j'avais du mal à l'encaisser réellement et qui me mettait dans des émotions, des stress plus élevés par rapport à un départ d'un 100 mètres. Donc, tout s'est enchaîné très vite et mais je, ça, bah forcément c'est des très bons souvenirs et ça montrait que encore une fois que j'étais un homme de championnat, que je pouvais faire mes meilleurs chronos dans les moments les plus importants.
Et est-ce que l'objectif juste avant la course c'était d'être champion de France ou pas du tout? C'était vraiment focalisé sur 10 secondes puisque ça faisait déjà un mois ou deux que toute la presse disait quand est-ce qu'il va les faire, les 10 secondes, quand est-ce qu'il va les faire. Est-ce que l'objectif, c'était je veux voir le tableau d'affichage avec 9 quelque chose?
Il y avait un peu des deux. Il y avait l'envie d'être champion de France, qui est encore pour moi quelque chose d'important dans une saison, être champion de France. Et l'envie de battre mon record et enfin passer sous les 10 secondes. Je m'en souviens qu'en demi-finale, il y avait cette frustration de pas avoir réussi ces 10 secondes alors que je les avais dans les jambes. Je m'en souviens, j'étais un peu énervé de pas l'avoir fait là alors que je savais que c'était totalement possible. Mais derrière, j'ai réussi quand même à m'en mobiliser. Je savais que dans une tension de finale d'un championnat de France, je pouvais trouver ces ressources qui m'ont permis de faire ces moins de 10 secondes.
Cette barrière des 10 secondes, est-ce que votre entraîneur Pierre Carraz, vous considérez ça comme un accomplissement important? Est-ce que c'était pour lui aussi une étape que vous deviez franchir et est-ce qu'il vous encourageait à y penser aussi?
Non, il savait comme moi que c'était dans mes capacités de le faire. Et il voyait ça justement dans la suite logique de ma progression. Il savait que je l'avais dans les jambes et que ça allait être une étape en plus dans ma progression. Il n'a pas cherché plus que ça, à me pousser à mettre la pression parce qu'il me connaissait, vraiment l'athlète que j'étais. Je pense qu'il l'avait dans un coin de sa tête, les moins de 10 secondes, mais il ne m'a pas foutu la pression parce qu'il savait que c'était dans mes jambes et il savait que c'était dans sa progression logique.
Il ne vous chambrait pas là-dessus?
Non. Non,
parce qu'il était chambreur.
Oui, il était un peu chambreur, mais... avec ce qu'on a fait aux entraînements, ce qu'il a vu aux entraînements, il savait que c'était totalement envisageable.
On a vu très tôt que vous étiez un homme de championnat, puisque vous étiez déjà champion d'Europe junior du 100 mètres, champion du monde junior du 200 mètres en 2008. Justement, racontez-nous un petit peu ce qui vous plaisait dans cette tension de la finale.
Je pense que c'est surtout c'est l'atmosphère globale qu'on peut ressortir avant un sprint de haut niveau, un sprint avec des enjeux. T'as le stress du championnat, t'as l'atmosphère que dégage finalement la finale d'un 100 mètres, parce que quand on voit toujours des 100 mètres dans un championnat, même chez les jeunes, on sent qu'il y a toujours une tension qui est palpable, qui est là, et tu sais que tout va se jouer très vite. Et c'est vraiment des tensions, des palpitations. Moi, je m'en souviens, dans une finale d'un 100 ou même dans un 200, c'est encore pire sur un 200, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, j'ai l'impression que je suis déjà en hyperventilation. Et c'est des émotions qui sont incroyables et que t'as, bizarrement, c'est des émotions qui peuvent paraître désagréables, mais dans un championnat comme ça, un enjeu comme ça, t'as envie d'y retourner quand même, t'as envie de revivre ça parce que c'est des émotions que tu trouveras jamais vraiment ailleurs en dehors de ça. Donc c'est pour ça que j'ai toujours envie d'être dans un championnat. Il y a, bien sûr, en dehors de l'objectif médaille, etc., objectif personnel, il y a aussi de retrouver ces sensations de championnat-là, ces sensations d'enjeu, de stress lié à l'événement qui font que t'as toujours envie d'y retourner, t'as toujours envie de revivre ça.
Et l'une de vos forces dans ce type de contexte-là, de tension, c'était justement de savoir très bien la gérer, d'être dans cette bulle dont on parlait beaucoup à l'époque, parce qu'on la voyait pas, la tension chez vous, avant un départ.
Disons qu'en fait, moi, je pense que peut-être comparé à d'autres, moi, j'essayais pas de lutter contre ça. Justement, moi, ça me plaisait ce genre de tension, parce que quand je vivais ces émotions-là, je savais que pour moi, j'étais dans mon championnat, j'étais dans le truc, j'étais dans l'événement, et moi, je luttais pas contre ça. J'essayais que ça prenait pas des proportions trop intenses, mais moi j'avais envie justement de ressentir ça pour me dire là je suis dans le truc, je suis dans le championnat, je suis dans mon élément et tout se passe bien, je suis concerné par ce qui se passe et tout va bien finalement.
C'est un peu inné ce genre de truc parce que la plupart des athlètes quand ils ressentent ça, enfin la plupart des athlètes, non, il y a beaucoup d'athlètes qui se font bouffer en fait par ce stress, par ces palpitations et qui perdent leurs moyens. Vous, c'est le contraire.
Oui, moi, en fait, j'ai toujours été fan de compétition. J'ai toujours été très compétitif depuis que je suis gamin. J'adore la compétition, j'adore gagner. Bah, bon, en même temps, tout le monde aime gagner, forcément. Mais disons que, on va dire plutôt, j'ai. C'était quand il y avait de l'enjeu, quand il y avait quelque chose à aller chercher. Bizarrement, ça m'a toujours transcendé, me dire là, il y a quelque chose à aller chercher. Je sais que je peux aller chercher quelque chose. Je sais qu'il y a moyen de décrocher un podium ou une médaille. Donc, je ne me posais pas la question. J'allais à fond du début jusqu'à la fin et on voyait ce qui se passait. Mais ce genre d'événement, encore une fois, je disais, comme je vais peut-être me répéter, mais j'adorais ce genre d'événement-là. Ça me dire que ça y est, je suis dans une atmosphère de compétition intense avec des enjeux et une ambiance avec le public qui se tait avant le départ, juste avant le coup de pétard, c'est quelque chose d'unique finalement. Tu verras jamais ça dans un concours ou dans demi-fond, un silence cathédral juste avant le départ d'un 100 mètres ou même d'un 200. C'est quelque chose d'incroyable. Et moi, ça m'a jamais perturbé. Au contraire, j'adorais ces ambiances-là. Tu disais que t'as tous les yeux rivés sur toi, ça peut te faire une pression. Mais moi, ça ne me dérangeait pas parce que moi, j'avais dans ma tête ma course, mon objectif, à me donner à fond et terminer.
Alors, c'est drôle parce que cette semaine-là, vous basculez définitivement dans la cour des grands avec ces deux chronos, 9,98 et 20,16, record de France égalé sur 200 mètres, alors que vous venez juste d'avoir votre bac. C'est, c'est assez drôle comme situation.
Bah, je pense que c'est la situation de beaucoup d'athlètes qui font leurs études, entre guillemets, qui sont au lycée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'histoire qui ont dû, passer leur bac en même temps qu'essayer de réussir leur saison athlétique. Mais c'est vrai que c'était une saison, une année même assez chargée entre les deux, avoir le bac, faire mes objectifs en termes de chrono, aller chercher ma place pour le championnat d'Europe, aller chercher des médailles là-bas aussi derrière. Donc, il y avait beaucoup de choses à gérer, à préparer. Et finalement, je suis content d'avoir réussi à tout conjuguer. Donc, j'étais assez, assez content. Hein.
Et c'était 5 jours avant le bac, les résultats du bac. Il n'y avait pas assez de temps pour faire
ça. Ah non, de toute façon, il y avait le bac. Et après, il fallait au championnat de France. Donc, il n'y avait pas de temps de fêter rien du tout, en fait. Il fallait attendre vraiment la fin de saison, après le championnat d'Europe, pour fêter quoi que ce soit.
Christophe Lemaitre descend sous les 10 secondes. Pour la première fois de sa carrière, on l'attendait.
La première fois de l'histoire d'un sprinter blanc, si on peut remarquer,
oui,
ça,
si on peut dire. C'est quelque chose d'assez. Le premier sprinter à descendre sous les 10 secondes, c'était il y a 42 ans, en 1968. Eh bien, Christophe Lemaitre rejoint la soixantaine de sprinters qui l'ont déjà fait.
Vous entrez dans l'histoire du sport français, mais vos performances résonnent aussi à l'étranger parce que vous êtes le premier athlète blanc à courir sous la barrière des 10 secondes sur 100 mètres. C'est une appellation qui vous a longtemps suivi. Est-ce que ça vous a dérangé quand vous répétez ça à l'époque ?
Totalement. Disons que j'étais un peu triste, dégoûté de que le côté sportif soit un peu... mise à l'écart par un autre fait qui pour moi n'était pas important, qui était juste, on va dire, une anecdote ou un fait sympa à raconter, mais voilà, sans plus. Moi, le plus important, c'était, comme j'ai dit, passer 10 secondes, casser cette barrière, commencer à rentrer dans le gradin du sprint mondial et terminer. Et je pense que moi, ça m'aurait fait, j'ai pas plus plaisir, mais je pense que c'était plus important de souligner voilà, l'importance des 10 secondes, l'importance d'avoir un deuxième Français en dessous des 10 secondes, d'être champion de France, etc., les perspectives d'un tel chrono, plutôt que de parler de cette histoire de premier blanc qui, pour moi, à l'époque, a pris des dimensions trop importantes par rapport au côté sportif.
Et ça faisait de vous une curiosité plus qu'un athlète de très haut niveau?
Oui, aussi, on pouvait aussi me voir comme ça. Parce que c'est vrai que je suis le premier blanc, parce qu'on a toujours l'habitude de voir, jamais voir de, entre guillemets, de blanc toutes les 10 secondes, d'être sur la ligne de départ de grandes courses, entre guillemets. Mais pour moi, c'était clair dans ma tête. C'était pas une question, j'ai toujours pété, c'était pas une question de coureur de pro, c'était juste une question de travail, de talent aussi, malheureusement, forcément, parce que le sport, c'est quelque chose d'assez inégalitaire et il faut avoir les deux. Et finalement, j'ai juste travaillé pour en arriver là où j'en étais. Et moi, le message que je voulais faire passer avant tout et pas parler de cette histoire de premier blanc.
Est-ce que les athlètes, les autres athlètes internationaux que vous croisiez dans les meetings, vous parlaient ça du fait que vous étiez le premier blanc ou pas du tout? Ou alors ils se disaient, voilà, Christophe Lemaitre, maintenant c'est un concurrent qui court en moins de 10 secondes.
De mémoire, je m'en souviens pas qu'un autre athlète au niveau international m'ait interpellé par rapport à ça. Je pense qu'ils m'ont plus reconnu comme un athlète qui fait moins de 10 secondes, un athlète à nouveau, on va dire, concurrent sur la piste, sur le 100 mètres et sur le 200, mais pas en tant que premier blanc, tu dis 10 secondes, ça je suis sûr.
Et dans la foulée de ces championnats de France, il y a le meeting de Saint-Denis, où là, il y a que des cracks sur la ligne de départ, Usain Bolt, Asafa Powell, Yoann Blake, de mémoire. Vous finissez cinquième en 10-09. C'était une première expérience internationale importante pour la suite de votre carrière ou finalement c'est dans le fil de la saison?
Alors, oui, c'est dans le fil de la saison, mais c'est surtout dans le fil de ma carrière. Parce que comme j'ai dit, le 9-98, c'était un premier pas dans le très haut niveau mondial. Et il fallait maintenant que je m'habitue à me confronter contre des gens comme ça pour faire ma place dans ce milieu-là. Et il fallait pas avoir peur de la confrontation. Je savais que, bon, t'avais Bor comme un du monde, Asafa Powell, ancien comme un du monde. T'avais Yoann Blake qui était la relève du sprint jamaïcain derrière Bolt. Donc, il fallait pas avoir peur de se confronter à ces mecs-là. Et donc, c'était normal, c'était à la suite de ma saison et de ma carrière, de courir contre des mecs comme ça pour justement aller de plus en plus vite, essayer d'aller de plus en plus vite et essayer de, entre guillemets, réduire l'écart entre ces gars-là et moi.
Donc, on continue dans cette fameuse saison magique en 2010 avec les fameux championnats d'Europe de Barcelone où là, vous gagnez 3 médailles d'or, 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres. Il n'y a pas de record de France cette fois, mais vous ouvrez votre palmarès chez les grands.
Totalement. Là, l'objectif... en fait, j'arrive vraiment à faire la différence entre un championnat et un meeting dans le sens où c'est sûr que plus on fait le meilleur chrono, plus on a de chance de faire une médaille, etc. Mais je sais que c'est pas... C'est toujours compliqué, c'est pas évident de surtout sur des sprints de faire des chronos et des records en championnat, surtout dans comme je dis dans un contexte où il y avait d'autres prétendants à la médaille d'or, il y avait moi, il y avait Dwayne Chambers qui avait fait justement moins de 10 quelques mois avant la Coupe d'Europe par équipe. Donc il y avait une concurrence rude et ça pouvait créer des tensions, du stress en plus. Donc, c'était vraiment une course où ça n'allait pas être forcément... je veux dire, ce n'est pas le plus rapide, c'est le plus rapide gagne, mais c'est surtout celui qui maîtrisera, on va dire, mieux ses émotions, mieux ses nerfs qui l'emportera. Et ben, je suis content d'avoir bien maîtrisé mes nerfs. Et même si le départ, on ne va pas se le cacher, était un peu compliqué, avec un très mauvais temps de réaction, mais au moins, j'ai quand même réussi à rester dans ma technique, à rester sur ce que je sais faire et à l'emporter, malgré que le chrono soit pas en dessous des 10 secondes, un peu loin même de ça. Je crois que je fais 10, 13, 10, 12. Mais ça prouve que dans un championnat, c'est bien de faire des chronos, des records, mais c'est avant tout aussi une histoire de mental et de nerfs. Et c'est aussi des personnes qui savent garder justement leur nerf, qui peuvent remporter la course dans un championnat. Hein.
Oui, là, c'était vraiment l'idée du duel sur 100 mètres avec Dwayne Chambers. Et puis sur 200 aussi, il y a une médaille d'or qui arrive alors que on vous voit sortir du virage assez loin de la tête. Et il y a une remontée dans la ligne droite qui montre aussi là que vous avez les nerfs pour faire votre course sans vous occuper du retard que vous comptez déjà sur les premiers.
Oui, surtout que cette médaille d'or, ça vient vraiment au bout du bout, parce que je crois que je gagne pour un centième. C'est vraiment le cassé de la fin qui me sauve. Mais il faut remettre dans le contexte que c'était mes premiers championnats. J'ai enchaîné beaucoup de courses, chose que j'avais jamais fait. C'est la première fois que j'enchaînais 100-200 dans un grand championnat. Et il y avait 3 courses à chaque fois. Et je pense que là, à la finale, j'étais vraiment... fatigué physiquement, nerveusement aussi, parce que enchaîner toujours des courses à haut niveau dans un championnat, c'est nerveusement dur. Et je pense que là, je l'ai vraiment cherché avec plus avec mon ego que qu'avec le physique, parce que vous voyez que j'étais derrière tout le monde et je me disais non, c'est pas possible, fonce, tu veux pas, voilà, j'essayais de me, bon, c'est la fois que je me disais, non, non, parce que je savais que j'étais derrière, c'est pas possible d'être à,
d'être vous deviez être septième, à peu près, ouais, en
7-8e, moi, j'étais, ouais. Ouais, j'étais au dernier. Et je serais dans ma tête, non, non, alors, parce que pour dire, bah, c'est pas possible d'être, je peux pas rester comme ça, quoi. Donc, voilà, je donne tout ce que j'ai. Et ça, je commence à remonter, je remonte. J'arrive pas à rattraper Lidford Christie, Christian Malcolm, qui était devant moi. Et voilà, j'étais vraiment, c'est un cassé, mais je sais pas si j'espérais grand chose ou pas, je m'en souviens plus, mais je sais que je casse, bah, pour essayer justement de passer devant. Et je vois au tableau d'affichage que je gagne, et là, c'est un soulagement incroyable de se dire que voilà, j'ai réussi, parce que je pense que j'aurais été deuxième, je m'en serais voulu, parce que en voyant la course, je me dis, mais j'ai loupé ma finale, je suis dernier tout le long, je cours mal, il y a rien qui se passe. Donc, je m'en serais trop voulu de pas avoir gagné pour pas grand chose. Et au final, bah, je gagne, c'est moi qui gagne pour pas grand chose. Et il y a eu un ouf de soulagement à la fin. Je reste au sol parce que je suis cramé, j'en peux plus. Et ça me permet, bah, de faire ce doublé et puis le triplé avec l'équipe de France avec le relais 400 derrière.
Avec cette capacité que vous aviez physiquement à allonger votre foulée dans les 50 derniers mètres, qui faisait que tout le monde avait l'impression que tout le monde ralentissait, alors que vous passiez une vitesse supérieure.
Bah, je pense que c'est plus dans des qualités physiques, comme avait souvent répété mon ancien coach Pierre Carraz. J'avais cette qualité de pied qui faisait que malgré la fatigue et le lactique, mon pied se déformait pas, et du coup j'avais toujours une solidité au sol qui permet, bah, toujours de pousser vers l'avant, comparé à peut-être à deux sprinteurs qui s'affaissaient un peu plus et qui n'avaient pas à générer de la vitesse, plus de vitesse vers l'avant. Et du coup, c'est vrai que ça donne l'impression que c'est moi qui accélère, mais en fait c'est juste moi qui arrive à maintenir ma vitesse, et les autres qui eux n'arrivent pas à maintenir la leur et à décélérer, en fait.
À la fin de cette saison, vous abaissez encore le record de France à 9,97 à Rieti, fin août, dans une course où vous finissez quatrième. On imagine que c'est pas tout à fait pareil quand même en termes de sensations, de souvenirs, d'importance peut-être.
Oui, c'est pas pareil. Après, bien sûr, je suis content d'être descendu encore une fois sur les 10. Comme ça, ça m'a permis de montrer que j'étais capable de... Le but était aussi maintenant de prouver que j'étais capable de courir régulièrement sous les 10. Et je pense que c'était bien de le faire aussi pour prouver que c'était pas juste un coup de chance par rapport à Valence, ou qu'il y avait toutes les conditions, que je suis capable, même en fin de saison, parce qu'on peut dire en fin de saison, j'ai fait Chevalet de France, je vais en Europe, j'ai fait des meetings, nerveusement c'est long, c'est dur, mais malgré ces conditions-là, j'étais capable de refaire un chrono en dessous des 10, de rebattre mon record de France. Donc ça prouvait que j'étais une personne capable de courir sous les 10 secondes plus d'une fois, et malgré différentes, on va dire, conditions de course.
C'est une belle fin de saison. Forcément, ça vous lance parfaitement pour la saison 2011. Et vous nous disiez avant de commencer l'enregistrement qu'en fait, le record, votre record très personnel qui vous tient vraiment à cœur, c'est celui de Daegu au championnat du monde sur 200 mètres, les 19,80. Donc, il arrive dans un championnat un peu particulier, vos deuxièmes championnats du monde. Racontez-nous un petit peu ces mondiaux.
Bah, c'était un peu des mondiaux où, je dirais pas bizarre, mais dans le sens où je suis passé par beaucoup d'émotions. Il y a eu d'abord le 100 mètres. Je me qualifiais pour ma première finale des championnats du monde. Il y a eu ce fameux faux départ du Usain Bolt, qui a, je pense, qui a choqué tout le monde, les spectateurs. Je crois que même les autres participants ont dû être choqués. Et donc, dans ma tête, je me dis, il n'y a pas Bolt, donc il y a une place sur le podium qui se libère, il faut en profiter. Sauf que j'ai pas assez en profiter, je suis quatrième au pied du podium. C'est vrai que c'était une place que, si j'avais fait podium, ça aurait été incroyable. Mais avant, je pouvais me dire, si je suis quand même déjà en finale, alors que je suis que 9, j'avais fait 9,92, mais avec 2 mètres devant, j'avais fait 9,95 et tout, je me disais, vu les ténors du sprint qu'il y avait, ce serait déjà un bon truc dans un premier temps, avant peut-être de voir plus loin plus tard. Mais je me dis quand même, il y avait Bolt en moins, il y avait peut-être moyen de chercher une médaille, c'est un peu dommage, c'est un peu une cartouche de manquer. Et puis il y a le 200 mètres qui arrive avec les séries, les demi-finales qui se passent très bien, où je gagne ma demi, où je suis encore pas loin du record de France. Mais ça ne veut toujours pas, parce que je crois que je courais longtemps que c'est encore de France du 200. Je m'en souviens, j'ai fait un gros chrono à Stockholm, au championnat d'Europe par équipe, mais sous des trompes d'eau.
20-28, ouais.
Et en plus, avec un gros vent de face en plus. Donc, il n'y avait jamais vraiment des conditions, je ne dirais pas forcément idéales, mais au moins des conditions normales pour me permettre de faire ce record de France-là. Et bah, il a fallu juste attendre le bon moment, ce que j'appelle le jour d'une finale, pour le battre et surtout l'exploser, fracasser cette barrière des 20 secondes en 19,80. Et c'est pour ça, pour moi, c'est mon record préféré, parce que ça arrive vraiment au meilleur moment.
Allez, c'est parti, Christophe, super bien parti. Christophe Lemaitre, parfaitement en ligne, alors que Sheffield est en train de faire son effort. Christophe Lemaitre, c'est très très bien, avec Walter Nix également, qui est super. Christophe dans la dernière ligne, droite pour l'instant, la bagarre pour la médaille, avec à l'extérieur Saïdi Noé. Allez, Christophe arrache quoi, c'est la médaille de bronze. Paul Nix, Christophe Lemaitre, 19,42, record de France, certainement explosé par Christophe Lemaitre. Oh là 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 là, c'est énorme ce qu'a fait Christophe. 19,80, incroyable, record de France explosé par Christophe Lemaitre.
Et je passe d'un gap quand même, je passe de 20,16 où je partage le record à 19,80. C'est pas je fais 20,14 ou 20,10, c'est vraiment un gap énorme. Et on sait que 19,80, des fois ça l'a prouvé à Daegu que ça m'a suffi à être troisième, à chercher ma première médaille mondiale. Mais aussi, 19,80, ça peut... Après, ça dépend de la concurrence, mais ça peut des fois permettre de chercher des podiums mondiaux aussi, d'autres podiums mondiaux aussi dans d'autres championnats. Et on sait que là, entre les 9,92 et 9,80, c'est vrai que 19,80, c'est, en termes de niveau mondial, c'est, pour moi, c'est beaucoup plus parlant qu'en termes de niveau par rapport à 100 mètres. Et c'est pour toutes ces raisons que, pour moi, c'est mon record... préféré, mon corps très personnel, quoi.
Est-ce que c'est parlant pour vous de vous dire que vous êtes à 5 centièmes de Carl Lewis à l'époque? Est-ce que c'est une référence qui signifiait quelque chose pour vous?
Quand on sait la carrière de Carl Lewis, oui, c'est quand même assez pas, c'est quand même parlant. Tu imagines, finalement, pas grand chose d'une icône du sprint mondial. Et il y avait cette envie de dire, finalement, c'est là, je pense que c'est une course qui me révèle en tant que coureur de 200, parce que, comme je le dis souvent, le 200 mètres, j'avais un peu du mal à, je dirais pas à l'appréhender, mais à le vivre, parce que j'avais toujours très lactique, très essoufflé, c'est vraiment une distance que j'avais vraiment du mal à encaisser réellement. Mais en même temps, c'est celle qui m'a apporté, les plus belles choses de ma carrière, et notamment, cette première fois avec Daegu. Et c'est ce qui m'a confronté dans l'idée que finalement, mes capacités physiques se révèlent plus sur cette distance-là que sur 100.
Cette course de votre vie, là, est-ce que vous pouvez raconter la fin? Parce que jusqu'à assez longtemps, vous êtes au coude à coude avec le Norvégien, Endure. Et là, c'est là qu'il ne faut pas craquer?
Ah oui, c'est là qu'il ne faut pas craquer, parce que je voyais... Bolt et Walter Dix qui étaient devant. J'étais au coude à coude avec le Norvégien. Et là, c'était la bagarre. Je lui dis, pareil, il faut que j'aille le chercher, le mec. Je ne peux pas finir encore une fois quatrième. Je peux pas laisser passer cette chance. Surtout que je savais que pour moi, j'étais supérieur à lui. Je l'ai montré toute la saison que j'étais supérieur à lui. J'avais fait des meilleurs chronos. Mais je savais aussi que dans une ligne droite... Une fois que j'étais lancé, je pouvais faire pas mon finish, mes capacités à garder ma vitesse. Et je voyais que petit à petit, je le rattrape, même je le dépasse. Et puis que je vois Bolt qui arrive, Dix qui arrive, moi qui casse, comme je fais au début, par principe, pour vraiment dire que je me donne jusqu'au bout. Mais quand je casse, je sais que je suis troisième. Dans mon champ de vision, je vois personne d'autre. Donc je me dis, pour moi, c'était sûr que j'étais troisième. Et je commence à célébrer tout de suite après une arrivée, parce que pour moi, c'était quelque chose d'incroyable de réussir une telle perf à un championnat du monde, surtout à mes premiers sur 200, parce que j'avais fait Berlin 2009, mais à mes premiers sur 200 mètres. Et finalement, j'ai pu on va dire, gommer un peu la déception d'avoir loupé le coche sur 100 mètres.
Et on est conscient qu'on a fait ce chrono-là quand on passe la ligne?
Non, pas du tout, parce que moi, Dix était pas si loin que ça. Je savais que j'allais battre mon record, ça c'était une évidence. Mais je pensais pas que j'allais battre mon record à ce point-là. C'est quand je vois les 19,80, je me dis, ah oui, j'ai fait la course de ma vie. J'ai fait j'ai fait une course incroyable. Et de se dire, ça y est, j'ai tout. J'ai eu le podium mondial, j'ai eu le record de France, et moins de 20 secondes, et vraiment en dessous des 20 secondes. Donc tu te dis que voilà, j'ai tout gagné. La seule chose qui manque, c'est, au limite, c'est l'or, quoi, pour vraiment faire un truc parfait. Mais Bolt était trop loin, donc j'ai fait tout ce que j'ai pu avec les deux personnes qui étaient devant moi. Je pense que je pouvais difficilement faire mieux que ce que j'ai fait à ce moment-là.
Vous dites j'ai tout gagné. En fait, il manquait quand même une médaille olympique qui va arriver plus tard à Rio. Après pas mal d'épreuves, de blessures, de doutes, de retours, etc. Elle occupe quelle place, cette médaille de bronze au Jeux de Rio 2016 dans votre palmarès personnel?
Pas compliqué, c'est la meilleure. Elle a la meilleure place. Hein. Même si avec l'historique qu'on a eu avec Daegu, avec le record, je pense que le plus important, ça reste pour un athlète, un sportif, c'est les Jeux Olympiques. Et d'avoir cette médaille olympique, c'est... ça a été beaucoup de choses. Ça a été, comme je dis, un peu une renaissance. Ça a permis de gommer beaucoup d'années de galères avec les blessures, de doutes également. Et aussi, ce fut enfin ma première médaille olympique en individuel que j'ai pas réussi à avoir à Londres en 2012. Et ça a permis d'avoir cette médaille dans un championnat qui me manquait, quoi.
Au fond, la médaille olympique, c'est la plus prestigieuse. Et la médaille de Daegu, c'est celle qui vous est le plus chère, sentimentalement et en termes de performance.
En termes de performance, oui, parce que 19,80, ça reste toujours encore mon record à l'heure actuelle. En termes de sentiment, c'est compliqué, parce qu'en termes de sentiment, il y a aussi celle de Rio qui est pas mal, parce que pour les raisons que j'ai expliquées avant. Mais c'est vrai que Daegu a son histoire qui est propre, qui est forte aussi. Et... pour moi, elle est juste derrière. Pour moi, elle est juste derrière Rio. Ça c'est incontestable pour toutes les raisons qu'on a citées avant. Hein.
Alors pendant ces deux saisons particulières 2010-2011, vous avez grignoté centième après centième les records, les chronos sur 100 mètres. Parce que c'est vrai qu'on s'est pas tardé dessus, mais au championnat de France à Albi en 2011, vous faites 9,92 avec un vent parfait, 2 mètres par seconde. Avant ça, vous avez grignoté 19,96, 9,95 deux fois. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit que la chasse au record, c'est un peu derrière nous. Maintenant, les accomplissements, ils sont davantage liés à des podiums, des médailles, des choses comme ça. Est-ce que vous avez senti ce moment, ou est-ce que c'est avec le recul que vous vous dites « Ah oui, c'était là ».
De toute façon, moi, j'ai toujours privilégié les médailles au record. Ça a toujours été ma philosophie. C'est d'être capable d'être prêt le jour J, d'être capable d'être dans la forme du moment dans un grand championnat pour passer des tours et être en finale et pourquoi pas après chercher une médaille. Ça a toujours été dans ma philosophie. Après, on sait que vu la densité qu'il y a au sprint, il faut quand même courir assez vite pour chercher les médailles. Mais Rio a montré un bon exemple, c'est que on n'est pas forcément obligé de faire des gros chronos. Là, je suis 10,02 en demi, qui était mon troisième meilleur chrono de tous les temps, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, 20,02 sur 200. Et puis après, derrière, on ne fait pas la même course, mais ça n'a pas été une course très rapide. Et au final, ça montre que dans un championnat, une fois que tu es en finale, c'est pas forcément tu n'es pas obligé de faire forcément un gros chrono pour arriver sur le podium. Parce qu'il y a des conditions qui font que des fois, ça va pas plus vite qu'en demi, ou pas plus vite que, par exemple, tous les chronos qu'on fait les autres avant. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, et tu dis que en finale, tout peut t'arriver. Tu peux être en finale avec n'importe quel chrono et avoir un podium même avec n'importe quel chrono. Je pense que l'exemple plus parlant, c'est avec Kim Collins en 2003, qui a créé une surprise totale en étant, je crois, colorant en plus, sur 100 mètres, et qui, il est pas en dessous des 10, et pourtant, il est champion du monde. Donc, le plus important, c'est d'être en finale, et après, une fois que tu es en finale, tu donnes à fond, tu vois ce qui se passe et bah, tu peux avoir la surprise de d'avoir fait quelque chose de grand sans pour autant avoir fait des chronos stratosphériques.
Et quand on a accumulé comme ça tant de records de France du 100 mètres et qu'on l'a plus, c'est une frustration ça, de vous dire bah, j'ai fait 9,98, 17, 16, 15, 12, mais c'est plus moi le recordman de France.
Bah, c'est sûr que pour l'ego, ça fait un peu mal. Tu dis que c'était toi l'homme le plus rapide de France, tu l'es plus. Donc c'est sûr que ta fierté en prend un coup, t'es triste de plus l'avoir. Mais d'un côté, quand on y repense avec le recul, tu dis que bah, le sprint français a vachement évolué. Tu te dis que tu passes de 9,99, première fois avec Ronald Pognon, à quand même 9,86, record d'Europe égalé avec Francis Bicoulou. Donc tu dis que le sprint français a fait quand même un bond en quelques années. Et tu dis que bah, c'est bien pour le sprint français de dire que bah, voilà, maintenant, il y a plusieurs hommes en dessous des 10 secondes. Maintenant, il n'y en a plus qu'un seul en 9,99. Tu as eu moi en 9,92. Tu as eu Jimmy Vico en 9,86. On a eu Michael Zizé après quelques années après en 9,99. Donc tu dis que voilà, il y a quand même une densité maintenant en sprint qui commence à se créer en France. Et tu dis que voilà, il y a une évolution positive de ton sport et ça fait plaisir à voir pour la suite et pour le niveau à l'international.
J'aimerais revenir sur le rapport avec Usain Bolt parce que bah, vous avez partagé en fait pas mal de courses avec lui. Vous aviez, de notre point de vue en tout cas, des points communs entre avec cette insouciance, ce grand gabarit aussi, ces grandes enjambées, des foulées similaires à 2,70 m. Vous aviez quel rapport avec lui en coulisses, ce qu'on nous on ne voyait pas?
Non, on avait quand même d'assez bons rapports. Bon, on se croisait rarement, on se croisait bien sûr dans les meetings, dans les chambres d'appel ou même dans le championnat. Mais c'est vrai qu'on avait quand même de bons rapports. Bon, on a vu je pense que des rapports que tout le monde a vu quand on était sur la piste après les finales à Daegu, que ce soit après le 200, 4x100 ou même à Rio. Voilà, il y a eu toujours des bons rapports. Ça a été très convivial finalement, voilà. Il y a eu bah, cette fois où t'as Bolt qui déconne un peu quand j'étais en chambre d'appel au meeting de Paris, au meeting Paris, Areva. Ouais. Donc, ouais, finalement, c'est un rapport assez sympa. Même des fois, il était très joyeux quand on s'est vu après les Jeux de Londres en boîte de nuit après pour faire des Jeux. Donc voilà, non, mais c'est. Tu vois, on pourrait se dire, bah, il fait sa vie, il est dans son coin. Il peut faire ce qu'il veut, c'est la star, mais tu vois, il y a quand même, des fois, dans d'autres circonstances autres que compétitionner, il vient me voir, me parler. Donc, c'était assez cool. Et voilà, ça prouve que c'est une personne assez détendue, relâchée, pas prise de tête. Et je pense que c'est vrai que ça détonnait à l'époque, comparé au sprinter américain qui était vraiment... on va dire qu'il faisait le... Il faisait pas vraiment chaud, mais... Mais c'était différent, voilà, c'était vraiment plus visage vénère à rouler des mécaniques, alors que bah, lui, c'était pas du tout le cas, ça souriait, ça déconnait, et c'est vrai que c'était quelque chose de totalement différent, mais qui était aussi on va dire rafraîchissant. Ça faisait plaisir de voir autre chose, ouais.
Vous êtes dit plusieurs fois, enfin, quand vous étiez au départ de différentes courses en meeting ou en championnat, Bolt, je vais le battre, je vais pouvoir le battre. Ou est-ce que c'était tellement inenvisageable que ça dépassait encore l'esprit de compétition?
Dans ma tête, quand je faisais des courses contre Bolt, je me disais, il faut aller chercher. Il faut aller chercher parce que tu sais que ça va aller vite devant, enfin avec Bolt, forcément. Donc, il faut aller chercher pour essayer bah, de faire mon chrono, parce que c'est une chance. Pour moi, je ne considère pas que c'était un problème de courir contre Bolt. Pour moi, c'était plutôt une chance et un avantage, parce que tu dis que tu as le meilleur du monde actuellement. Il faut en profiter bah, pour essayer d'aller le chercher, d'essayer de réduire l'écart avec lui, d'essayer bah, profiter de l'aspiration pour baisser le chrono. Et après, pourquoi pas sur une bonne forme, et pourquoi pas le titiller, voilà. Moi, je voulais pas partir perdant en se disant, oh, y a Bolt, je vais perdre, je vais être deuxième au grand max, et voilà. Non, non, moi, j'ai vraiment dans l'optique de, on va courir contre lui, on va aller essayer de tout faire pour rester au contact avec lui, aller le chercher le meilleur chrono, bah, pour pouvoir essayer de rivaliser avec lui le plus longtemps possible. Donc, c'était vraiment mon état d'esprit. Pour moi, c'était hors de question que je parte déjà défaitiste et perdant juste avant le départ de la course.
C'était plus confortable de l'avoir devant soi sur 200, le voir démarrer devant soi que l'avoir dans le dos, j'imagine.
Oui, c'est sûr que c'est mieux devant. Je m'en souviens, à Rio, justement, il était derrière moi. Chandy Martina qui était devant moi. Et moi, mon but dans ce course-là, c'était je dois dépasser Chandy Martina et résister à Bol derrière. C'était mon schéma de course. Tu ne peux pas vraiment avoir un schéma de course sur 200, mais dans ma tête, si j'étais comme ça, si j'arrive à le reproduire lors de la finale, je serais très bien. Sauf que Bolt est arrivé très vite et il m'a vite dépassé. Et c'est vrai que ça peut des fois être perturbant, ça peut être des fois te crisper, te dire putain, il est déjà là, il m'a déjà dépassé, je ne suis pas dans le meilleur mood. mais finalement, non, ça va, j'ai réussi quand même à m'embobiser, à continuer à courir et à chercher une médaille de bronze. Mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir un gars comme ça devant soi pour chercher l'inspiration que derrière soi. Ouais.
Votre dernière sélection en grand championnat en individuel, c'est 2017, les championnats du monde à Londres. Vous étiez encore au championnat du monde de 2019 avec le relais 4x100. Mm-hmm. Depuis, on ne vous a plus vu en équipe de France. Pourtant, vous poursuivez votre carrière aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous pousse encore, après tant d'années, à continuer à se présenter au départ? Est-ce que c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est cette envie de retrouver ces sensations si particulière?
Il y a ça, oui, forcément. Il y a aussi l'amour de mon sport, parce que j'adore le sprint, j'adore le 100, le 200. C'est un sport qui m'attire. Voilà, le sprint, c'est quelque chose qui me procure énormément de sensations en course, avant la course. Comme je l'ai dit souvent, les petites tensions, le stress, les palpitations, le cœur qui va très vite avant le départ d'un 200, c'est des choses que j'ai encore envie de ressentir. Et l'attrait de la compétition aussi. J'adore la compétition, j'adore me donner à 100% en compétition et me confronter aux autres. Et c'est pour toutes ces raisons que je continue. Et aussi, par tout ce que ça m'a procuré avant. Alors, c'est pas une question de recourir après ma gloire passée, c'est pas l'objectif, mais c'est surtout d'aller vraiment jusqu'au bout de l'histoire. C'est-à-dire, là j'ai tout changé dans ma préparation, dans mon staff, dans mon encadrement, et ça passe, tant mieux, on vivra encore de bonnes choses. Si ça passe pas, tant pis, j'aurais tenté autre chose, j'aurais vécu autre chose, et ça a été quand même une grande expérience quand même.
C'est un plaisir, Christophe, d'échanger avec vous, d'aborder tous ces sujets. Un grand merci d'être venu ici à Boulogne pour enregistrer ce podcast. Merci à vous, Jean-Christophe. Merci à vous, Christophe.
Merci à vous.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pourrez retrouver ce podcast tout l'été sur la plateforme L'Équipe, ainsi que sur les plateformes habituelles des podcasts. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode dans One Your Marks.